Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bon, ben on va commencer tranquillement. Oui, tranquillement. Enfin. Ouais. Donc, la semaine dernière, si vous voulez, à la suite de espèce de promenade un peu bestiaire, on est passé des hydres, vous vous rappelez, aux planaires, et puis ensuite aux vertébrés inférieurs, entre guillemets. Je vous ai proposé le schéma suivant, qui est un schéma un peu simpliste, mais qui, à mon avis, correspond probablement à ce qui se passe dans la fève. Donc voici ici un membre idéal qui a subi des préjudices irréversibles, justement pas irréversibles. Et ce que j'ai synthétisé sous forme de couleur, c'est l'information de position dans le segment en amont de l'amputation, bien entendu. Donc, ce que je proposais, c'est que par la suite, bien entendu, l'épithélium se forme et une interaction épithélium-mésenchyme nécessaire à la croissance du bourgeon permet ici l'arrivée rapide de cellules qui vont permettre la régénération du membre. Alors le membre, ça peut être un bras, ça peut être la moelle épinière, ça peut être n'importe quel organe d'une certaine façon. Et l'idée principale, c'est qu'il y a une zone de quiescente qui correspond à l'AER, une zone de prolifération qui correspond à la prolifération des cellules souches, et une zone de différenciation qui est proche du site d'amputation. Et je proposais, c'est qu'une information de type positionnel, mais aussi de type lignage, parce qu'il faut faire des différents types de cellules, arrive depuis le site d'amputation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de champ extérieur, il n'y a pas de gradient de morphogène, il y a, en fait, l'information morphogénétique viendrait de ce qui reste, ce qui est évidemment parcimonieux sur le plan moléculaire. Et que ce qui vient de ce qui reste seraient des molécules, des facteurs qui seraient sous le contrôle des gènes qui déterminent le patterning et le lignage, et en particulier d'homéoprotéines. Ces morphogènes, d'ailleurs, qui seraient donc des morphogènes contrôlés par les homéoprotéines, peuvent être les homéoprotéines elles-mêmes, puisque vous savez que nous pensons, nous avons pas mal d'arguments pour dire que les homéoprotéines sont elles-mêmes des morphogènes. Et donc ça nous ramène en fait au schéma qui est celui qui a été proposé par Duboule en 1994, où au fur et à mesure de la prolifération cellulaire, eh bien, on ouvre, si vous voulez, de plus en plus de gènes OX ici sur les quatre chromosomes OX, mais sur les deux pour ce qui est des bras, des membres en tout cas. Et donc c'est cette idée, si vous voulez, que je vous ai proposée. C'est à ça que j'en suis arrivé il y a après les sept premières heures de cours. Donc la question qui est posée maintenant, qui nous est posée, c'est si les salamandres peuvent le faire, pourquoi pas nous ? Donc effectivement, ce sont des vertébrés inférieurs, nous sommes des vertébrés supérieurs, mais bon, elles ont là un avantage certain sur nous. Donc il y a plusieurs éléments de réponse. Donc un des éléments, c'est que, au fond, celui sur lequel je vais m'attarder aujourd'hui, c'est qu'au fond, nous sommes incapables, nous, vertébrés supérieurs, dans une situation traumatique de ce type, de produire des cellules souches localement. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voyez ici, ce qui se passe dans cette aventure, c'est que nous avons ici des cellules souches qui se produisent localement. Donc, effectivement, il y a la transition épithélium-mésenchyme qui permet la prolifération de ces cellules. Mais je vais juste m'intéresser à cette question de production locale de cellules souches, c'est-à-dire de cellules dans lesquelles les marquages épigénétiques ont été effacés, en tout cas effacés transitoirement. Donc en fait, il y a deux choses. D'une part, il faut que le marquage épigénétique soit effacé transitoirement de telle sorte que je puisse récupérer mon statut de cellule souche. Et par ailleurs, il faut qu'au fur et à mesure que je me redifférencie, je remarque épigénétiquement mes cellules, parce que sinon je vais avoir des tumeurs. Donc en fait, ce sont deux choses qui sont à la fois en apparence contradictoires, une dédifférenciation par abolition du marquage épigénétique, et puis remarquage épigénétique au moment où je vais différencier mes cellules de telle sorte que mon membre ne soit pas en fait une tumeur, hein, ce qui serait pas forcément intéressant, à terme en tout cas. Donc, c'est la raison pour laquelle j'en suis arrivé à ce point. Et c'est la raison pour laquelle les deux cours, celui d'aujourd'hui et celui de la semaine prochaine, qui sera le dernier cours, vont être consacrés aux cellules souches, et en particulier aux cellules souches pluripotentes induites, qu'on appelle les IPS ou IPS, qui est une découverte récente de 2006 qui montre qu'en fait, à partir de n'importe quel tissu, eh bien, on peut induire la formation de cellules souches. Donc, je vais laisser la division cellulaire de côté, je vais m'intéresser à la perte et à l'acquisition de la pluripotence. Donc, c'est une question qui est ancienne. C'est une question qui date, en fait, des débuts des réflexions sur le rôle du noyau, d'une part, et des caractères portés par le noyau dans la différenciation. Hein. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais Weismann, dans les années à la fin du 19e siècle, pensait que seules les cellules germinales étaient totipotentes, mais qu'au cours de la différenciation, les cellules se différenciaient en perdant des caractères. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le même génome dans un fibroblaste et dans une cellule musculaire. Donc, si tel est le cas, évidemment, on ne peut pas prendre un fibroblaste et le transformer en cellule totipotente parce qu'il a définitivement perdu son caractère de totipotence dans la théorie de lignée germinale, lignée somatique, la lignée germinale et les lignées somatiques telles qu'elles avaient été proposées par August Weismann, je crois, en 1893, en l'occurrence. Voilà. Donc, il y a une revue assez intéressante qui a été faite il y a quelques années, en fait en 2003, par Gordon et Byrne, et qui rappelle que c'est il y a 60 ans que Briggs et King, dans un article que vous avez ici, avaient... alors voilà la théorie de Weismann. Vous voyez, la théorie de Weismann, c'est que je prends une cellule totipotente, et puis quand je vais me différencier en cellule rouge, en cellule bleue, je vais perdre des morceaux. Là, je vais perdre le morceau rouge et là, je vais perdre le morceau bleu. Donc après, c'est fini, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, ce qui a été démontré par la suite, avec quelques exceptions néanmoins pour certains types de cellules, c'est que, essentiellement, l'expression des caractères rouge ou bleu, c'est le résultat d'une régulation et pas le résultat d'une perte de caractère. Donc, ça a demandé des expériences qu'on appelait les expériences de transfert nucléaire. Et les premières expériences de transfert nucléaire, elles ont été faites chez les algues, chez Acetabularia, chez où on avait montré que les noyaux étaient totipotents. Mais ça n'avait jamais été fait avant Gordon et Byrne, avant Briggs et King, ça n'avait jamais été fait chez des vertébrés, même inférieurs, c'est-à-dire en particulier chez la grenouille. Donc ce qu'ont fait Briggs et King, c'est-à-dire ils ont pris des blastulats de grenouille. Et ce qu'ils ont fait, c'est, mais à des stades relativement précoces, très très précoces, hein, ils ont montré qu'on pouvait obtenir des têtards normaux en transplantant un noyau de blastula, c'est-à-dire au stade pas plus de 50 cellules ou 100 cellules dans votre œuf, c'est-à-dire un œuf tout à fait au départ. En prenant un noyau de blastula, on le met dans un œuf, en énucléant l'œuf, c'est-à-dire qu'on remplace le noyau de l'œuf par un noyau de blastula, et on regarde si l'œuf peut se développer pour donner un têtard. Hein, et s'il peut se développer pour donner un têtard, ça veut dire qu'au stade blastula, vous avez encore la totipotence, puisque je peux faire toutes les cellules de mon têtard. Et c'est ce que Briggs et King ont montré, je crois que c'est un article de 1950 ou un truc comme ça, 1952. Donc un article qui est très important, mais qui, eux, présentent comme un article technique. Hein. Si vous regardez un petit peu là, dans la discussion, ce n'est pas important, je l'ai mis parce que ça peut vous intéresser, mais essentiellement, comme ils ont pris des cellules certes différenciées, parce que c'est de la cellule, mais extraordinairement jeune, ils disent surtout ce que j'ai voulu montrer, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'en prenant... Il est possible de prendre des noyaux de petites cellules et les remettre dans un œuf, en gros. Et ça marche. Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est voilà. Donc, ensuite, ce qui a été introduit comme matériel biologique, qui a été introduit un petit peu plus tard, c'était l'œuf de Xénope. Donc, l'œuf de Xénope, c'est un œuf qui est bien parce qu'en fait, il est gros, vous voyez. Non seulement il est gros, mais c'est Laurence Ogben qui a introduit l'œuf de Xénope. C'est une grenouille africaine, ce n'est pas un crapaud en fait, contrairement à Michel Volovitch, mais toujours, ce n'est pas un crapaud, c'est une grenouille. Bon. Donc, vous voyez, ce que vous avez ici, par exemple, c'est les déterminants cytoplasmiques, vert, blanc, rouge, dans votre rapport. C'est un œuf qui se divise par segmentation. C'est-à-dire que vous n'avez pas une prolifération avec une grosse cellule dans deux grosses cellules, c'est la grosse cellule qui se coupe. Et ça, c'est intéressant du point de vue qui nous intéresse, c'est-à-dire du rapport entre le cytoplasme et le noyau, parce que vous voyez qu'au bout d'un certain temps, quand j'ai des clivages dans ce plan-là, les différents noyaux vont emporter des cytoplasmes qui ont une tête différente. Parce que si, par exemple, si j'ai une distribution différente du vert, du blanc et du rouge, à ce niveau-là, je vais avoir des cellules qui vont avoir uniquement du vert et du blanc et du rouge et du rouge. Donc les noyaux vont être en contact d'une information cytoplasmique différente en fonction de la position qui est la leur. Et du coup, on peut dire que le cytoplasme peut aller instruire le noyau, c'est-à-dire lui donner un destin en fonction de ce qu'il y a dans le cytoplasme, ou bien peut-être que le noyau, lui, va avoir, au fur et à mesure des divisions, perdu des morceaux. Donc, ce matériel a été très, très utile, et il a permis, en particulier, de confirmer les données de Briggs et Kings à des stades plus importants dans les noyaux qui sont prévus dans de l'endoderme, c'est-à-dire dans de l'intestin primitif, et même dans de l'intestin qui était déjà formé, hein. Par exemple, ils ont fait des manips comme ça, où ils ont pris des cellules intestinales, ils les ont transplantées dans un oocyte, un zygote énucléé, et cet animal est capable de donner un embryon, un tétard viable. Donc ça veut dire que déjà au stade endoderme, bien que vous ayez bien avancé dans la différenciation, votre noyau reste totipotent parce qu'il peut redonner tous les types de cellules. Donc ces expériences de transfert nucléaire ont donc été très utiles. Elles montrent que la différenciation des cellules résulte de changements dans l'expression du génome, mais pas dans sa structure, je veux dire, pas dans son intégrité, dans sa structure bien entendu, mais pas dans son intégrité, et que le génome, pour la plupart des cellules, reste totipotent. Hein. Donc ils ont fait ça aussi pour des noyaux de kératinocytes, ils ont fait ça, donc tout ça peut être reprogrammé. Et John Gordon, qui a fait toutes ces expériences, énormément de ces expériences, comme vous le savez, vient d'être recevoir le prix Lasker, qui est un très grand prix dans les sciences du vivant, essentiellement pour tout le travail qu'il a pu faire cette année, il l'a reçu, sur les transferts nucléaires. Il reste que là, nous sommes toujours dans le domaine des vertébrés inférieurs, hein, c'est-à-dire toujours entre guillemets, parce que je ne voudrais pas que le comité des vertébrés inférieurs viennent protester. Donc, mais ce n'est pas les oiseaux, ce n'est pas les mammifères qui, eux, sont des vertébrés supérieurs. Alors, dans le cas des mammifères, il y a aussi un transfert de noyaux somatiques, mais jusqu'à très récemment, enfin très récemment, 75-76, c'était très difficile à cause de la taille. Hein. Vous vous rendez compte que la taille d'un œuf de souris, c'est 0,1% de la taille d'un œuf de crapaud. Donc, en fait, il y a un rapport 1000 de taille. Donc, aller chercher le truc, il y avait des obstacles de type pratique. Et la première expérience de transfert nucléaire de cellules somatiques dans un œuf a été faite chez le lapin. Ils ont pris un noyau de morula, qui est la, vous voyez, quand vous avez la fécondation, c'est la division cellulaire, la blastula, et ensuite, ce qui se passe, le stade suivant, c'est ce qu'on appelle la morula, petite mûre. Il y a déjà eu une compaction des cellules, ça ressemble à une petite mûre. Donc, ils ont pris un noyau de morula qu'ils ont injecté dans un œuf de lapin énucléé et le développement est allé assez loin, mais pas allé plus loin que le stade morula. Donc, en fait, c'est un développement qui n'était pas très, très violent, si j'ose dire. Donc, pas grand-chose. Ensuite, il y a une autre expérience en 81 qui n'a jamais pu être reproduite du groupe de Ilmense. Comme Ilmense avait mauvaise réputation, à juste titre, on a pensé que c'était peut-être une fraude. Et donc, c'est en 83 qu'on a obtenu la première souris vivante à partir d'un transfert d'un noyau d'œuf dans un œuf énucléé. Donc, c'est rien, vous voyez. Donc, c'était vraiment juste pour voir si la manip peut se faire. Je prends un noyau d'un œuf, je le mets dans un œuf énucléé. Est-ce que je récupère une souris? Est-ce que je ne bousille pas mon noyau? Est-ce que... Bon, c'est des problèmes pratiques pour les biologistes, ces choses-là. Et en 86, ce qu'ils ont fait, c'est que les auteurs ont fait, c'est qu'ils ont fusionné, si vous voulez, des cellules prises au stade blastula, c'est-à-dire un œuf où il y avait un embryon, il y avait seulement 8 ou 16 cellules. Donc vous pouvez prendre une cellule comme ça et vous allez la fusionner avec des œufs énucléés. Et donc il y a des virus comme le Sendai virus qui permettent la fusion. Et donc vous avez votre noyau à un stade relativement précoce aussi, mais qui remis dans un cytoplasme d'œuf peut donner une souris. Hein. Donc c'est très très précoce, mais ça a été très rapidement fait aussi chez le lapin, chez le cochon, chez la souris, chez la vache, chez le singe. Donc quand même, c'est jouable. Et puis vous en souvenez peut-être, en 97, c'est le clonage de Dolly qui là a été fait à partir d'une cellule de glande mammaire en culture, c'est-à-dire que c'est des cellules de la glande mammaire qui résistent à la culture, et ils ont pris le noyau de cette cellule et ils l'ont balancé dans un œuf énucléé de mouton, de brebis, et ça a fait Dolly, donc ça, je vous souvenez sûrement. Et puis après, d'autres, des souris, des vaches, des chèvres, des cochons, des lapins et même un chat ont été ainsi clonés à partir de transferts nucléaires du même type de celui qui a été fait avec Dolly. Avec un taux de succès faible, de 1%, qui ne diffère pas de ce qui a été observé avant chez les amphibiens par Gurdon, en particulier par John Gurdon. Donc, même si ce taux de réussite peut paraître très faible, il l'est, je pense que le simple fait que l'expérience marche est déjà assez étonnant. Ce qui se passe donc, quand vous faites ça, c'est que vous avez une reprogrammation nucléaire sous l'influence du cytoplasme. Ça montre que le cytoplasme de l'œuf a des facteurs qui permettent de reprogrammer votre chromatine pour refaire une chromatine totipotente à partir d'une cellule qui est déjà très différenciée. Là, on ne parle pas de cellule non différenciée, on parle quand même d'une cellule, une cellule mammaire. Même si c'est une cellule souche mammaire, ça reste des cellules relativement différenciées. Donc, nous sommes maintenant en 2003 quand même, et l'étape suivante évidente, c'est d'aller chercher dans le cytoplasme donc, de l'œuf quels sont ces facteurs qui permettent de reprogrammer une cellule adulte pour en faire une cellule embryonnaire, pour en faire même un œuf d'une certaine façon, pour refaire un œuf. Donc, avant de vous expliquer ça, je crois qu'il faut que je vous explique un tout petit peu comment se fait le développement. Donc là, vous avez donc la fécondation, vous avez un œuf, donc deux N chromosomes, la blastula, ça correspond aux premières divisions, on est chez la souris, et puis vous avez la formation de cet embryon ici qui va aller s'implanter dans l'utérus de la femelle avec deux parties, une partie qu'on appelle le trophectoderme, qui est d'origine embryonnaire, mais qui n'a pas donné l'embryon, qui va donner les annexes embryonnaires, en particulier le placenta. Vous avez ici ce qu'on appelle la masse cellulaire interne qui va donner, elle, l'embryon au sens propre. Donc ça, c'est une chose importante. Alors l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'ici, en supposant que je puisse transformer un fibroblaste ou n'importe quelle cellule différenciée en une cellule qui aurait récupéré des capacités de faire un embryon, ce qu'on fait le plus fréquemment pour tester ça, c'est d'agréger ces cellules-là avec des cellules de la blastula, donc vous faites un mélange, donc vous avez des cellules normales et des cellules de la blastula, et ça vous réimplantez dans une femelle qui a été préparée par une petite injection d'hormones pour pouvoir recevoir l'embryon, parce que ça devient un embryon, et puis vous allez faire ce qu'on appelle donc des souris, une portée de souris qui sont des souris chimériques, parce qu'elles sont à la fois dérivées de cette cellule-là, et puis des cellules de la blastula. Et si vous avez la chance que ces cellules rouges participent à la lignée germinale, eh bien, vous allez faire des oocytes et des spermatozoïdes qui seront porteurs en fait, de ce génome-là, et donc, dans la génération suivante, vous aurez des souris qui sont entièrement dérivées d'une cellule, par exemple, fibroblastique, qui a été de nouveau rendue totipotente. D'accord ? Donc ça, c'est juste pour vous raconter ça, parce que vous avez besoin d'avoir ce minimum de background pour comprendre la suite. Donc, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que ces cellules de l'ICM, ici, de la masse cellulaire interne, sont utilisées pour faire ce qu'on appelle des cellules ES, c'est-à-dire que vous pouvez les mettre en culture, et si elles se prolifèrent, alors ça devient des lignées qui, toute la vie, enfin tout le temps, prolifèrent indéfiniment, sans que jamais les télomères ne se raccourcissent, et sont des cellules qui peuvent servir de cellules donc on utilise essentiellement pour faire de la transgénèse. Je vous expliquerai ça un tout petit peu plus tard. Mais peut-être pas d'ailleurs. Donc vous prenez ces cellules ES, vous pouvez les modifier, vous pouvez retirer un gène, rajouter un gène, faire ce que vous voulez avec. Et ensuite, vous pouvez les utiliser pour faire l'embryon. Et c'est la base, si vous voulez, des techniques les plus classiques pour fabriquer des animaux transgéniques. Donc, parce qu'évidemment, ça peut se manipuler facilement. Donc on part de ça, on fait des cellules de S, on les modifie, on les réagrège, on fait des lignées. Donc je pense que c'est en gros ce dont vous avez besoin, j'espère, pour comprendre la suite. Hein. Donc avant 2006, c'est-à-dire une période charnière 2006, parce que c'est en 2006 qu'on a inventé des cellules induites. Avant 2006, il n'y avait pas énormément de techniques pour faire de la reprogrammation nucléaire. Ce qu'on faisait, il y a le transfert nucléaire, celui dont je vous ai indiqué ici. Donc vous entrez dans votre noyau de n'importe quelle cellule, vous mettez dans un œuf, et que vous avez lui-même énucléé, bien entendu, et vous espérez que ça va marcher. Avec ça, vous pouvez faire soit des cultures, soit refaire des souris, c'est ce que je viens de vous montrer. Vous avez la fusion cellulaire dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que vous prenez une cellule, vous avez fusionné avec des cellules embryonnaires. Donc, en général, ça a un problème parce que ça vous fait des cellules qui sont diploïdes ou même multiploïdes, c'est-à-dire qui n'ont pas 2N chromosomes, mais plus que 2N chromosomes. Et ça ne va jamais dans une souris. C'est-à-dire que si vous faites des plus de 2N chromosomes, vous ne ferez pas une souris avec ça. Et d'ailleurs, c'est une technique qui est utilisée, je vous dirai, vous montrerai plus tard, pour faire de la transgénèse. Pour une question posée par la transgénèse. Vous pouvez aussi faire des extraits cellulaires de votre œuf. Et puis, voir ce qu'il y a dans l'œuf peut reprogrammer vos noyaux. Alors ça peut faire de la biochimie, mais ça n'ira jamais beaucoup plus loin. Et puis, vous avez des cellules, vous pouvez mettre en culture, et coup de bol, ça va vous faire des cellules multipotentes. Mais en fait, ça ne marche que pour les cellules de la lignée germinale, c'est-à-dire qui sont prélevées dans les ovaires ou surtout dans le testicule. Donc, ça reste extrêmement limité, mais le principe de différentes technologies de reprogrammation nucléaire sont tels que je vous l'ai ici. Donc voilà comment ça se passe. Hein, ce sont c'est essentiellement ces techniques de reprogrammation. Donc de nouveau, je vous en parle. Alors là, c'est intéressant parce que ça, c'est les cellules ES. Hein, on prend la masse cellulaire interne, on fait des cellules ES. Je vous ai parlé des cellules ES. Ce sont des cellules qui peuvent permettre de faire des embryons. Ça, ce sont des cellules qui sont sorties des ébauches génitales. Chez les souris et qui sont en fait des cellules pluripotentes mais qui sont d'origine génitale, hein, EEG. Avec ça, on peut faire des tératocarcinomes, c'est-à-dire que si on les réinjecte chez une souris, ça fait des tumeurs. Et ces tumeurs sont ce qu'on appelle des cellules C, qui sont aussi multipotentes, mais avec lesquelles on ne va pas refaire de souris. Puis vous avez à partir du testicule, en particulier, vous pouvez faire des cellules qui ressemblent à des cellules ES, et même vous pouvez prendre des cellules souches adultes et essayer d'en faire des cellules multipotentes, mais elles ne seront jamais totipotentes. Donc, vous voyez qu'en 2006, nous sommes à un système où, fondamentalement, pour refaire des cellules souches pluripotentes, c'est relativement compliqué. Hein. Il faut retransférer le noyau, il faut injecter dans l'oocyte, il faut ensuite agréger avec les cellules de la blastula, refaire des cellules ES. Et ce qui s'est produit en 2006, c'est une simplification extraordinaire du processus, en fait, avec un cocktail de quatre facteurs, à partir d'une cellule adulte, on est capable de refaire des cellules pluripotentes. Donc c'est de ça que je vais vous parler, parce que quand on parle de régénération du membre, quand je veux refaire des cellules pluripotentes au bout de mon membre que j'ai coupé, bien entendu, si je peux reprogrammer les cellules qui sont au bout du membre dans la région non amputée, par une technique aussi simple que d'y exprimer 4 gènes, vous allez voir peut-être moins, évidemment, j'ai fait un progrès énorme, à condition de ne pas choper une tumeur. C'est quand même le gros problème de ce genre de technologie. Donc, ouais. Donc, voilà, donc ça c'est aucune technique aussi qu'il faut que vous compreniez un tout petit peu. C'est-à-dire que si je prends maintenant une cellule fibroblastique, que je la transforme pour en faire une cellule induite pluripotente en exprimant 4 gènes, je reviendrai sur ces 4 gènes dans un instant, je vais avoir ici, je peux agréger mes cellules, faire une boule de cellules à 2N chromosomes qui sont maintenant des cellules pluripotentes. Dans des cellules dont je pense qu'elle peut me refaire un embryon complet. Alors, pour voir si c'est vrai, la technique REN, c'est de réagréger avec des cellules qui sont des cellules de la blastula, mais qu'on a rendues tétraploïdes, c'est-à-dire qu'elles ont 4N chromosomes. Quand on est tétraploïde, on ne peut faire que du placenta, on ne peut pas faire de la masse cellulaire interne. Donc, si j'arrive à réagréger ces cellules-là avec des cellules de blastula qui en quatrainent et réimplantées dans ma souris, je vais avoir des cellules qui viennent du fibroblaste dans le trophectoderme, je vais avoir aussi ces cellules dans le trophectoderme, mais toute ma masse cellulaire interne ne sera faite que de mes souris qui sont diploïdes, que de mes cellules diploïdes. Et si avec ça je fais une souris, hein, ça veut dire que ces cellules étaient capables de faire tous les tissus de la souris, de me faire une vraie souris. Donc ça veut dire qu'avec un fibroblaste, je suis capable de refaire une souris. Mais un fibroblaste pris chez une souris adulte. Hein. Donc c'est ça ce qu'on appelle les IPS. Hein, et c'est de ça que je vais vous entretenir. J'espère aller jusqu'au bout, parce que c'est une affaire un tout petit peu compliquée. Donc, alors, les expériences de 2006, celles qui ont permis de faire cette affaire, vous voyez ici, là, cette affaire-là, sont, sont dues à Takahashi et à Yamanaka. Yamanaka vient de partager le prix Lasker avec John Gurdon. On est vraiment dans la même lignée d'expériences. Et ils ont démontré que l'expression de 4 gènes seulement, OCT4, SOX2, CEMIC et KLF4, qui encodent des facteurs de transcription, sont suffisants pour restituer une totipotence complète à des fibroblastes adultes, prises chez la queue d'une souris. Hein. Vous rappelez l'autre jour, les fibroblastes sont des cellules qui sont marquées épigénétiquement, y compris au niveau d'information positionnelle. Hein, on en a parlé la semaine dernière. Donc, la totipotence des cellules a été démontrée par le test que je viens de vous parler, c'est-à-dire qu'on a réagrégé avec des cellules tétraploïdes et on a montré qu'on pouvait faire une souris complète. Donc ça veut dire que ces cellules fibroblastiques sont effectivement capables de faire ça, c'est-à-dire qu'elles sont capables de refaire une souris, ce qui montre que mon fibroblaste est vraiment reprogrammé pour faire une cellule totipotente. Donc, c'est une stratégie qui est extrêmement directe, et même, je dirais, violente. Hein. Donc, elle part de l'idée que pour transformer un fibroblaste en cellule souche, on ne saurait faire appel à un seul gène, mais un gène maître, mais un nombre quand même limité de gènes qui travaillent en réseau. Alors, la façon dont l'équipe de Yamanaka s'y est prise, c'est d'identifier dans les cellules ES, ils ont pris des cellules ES, qui sont donc des cellules avec lesquelles on peut faire des embryons, classiquement, qui viennent des cellules de la masse cellulaire interne mises en culture et qui sont des cellules totipotentes. Ils ont regardé ce qu'on appelle la stem cellness de ces cellules, ils ont identifié les gènes qui étaient exprimés dans ces cellules souches. Ils ont trouvé 24 gènes, si vous voulez, qui leur semblaient devoir être relativement bien exprimés dans ces cellules souches. Cellules ES, pardon. Et ils ont pris des fibroblastes. Ils ont pris des fibroblastes qui portent un marqueur de sélection. Sous le contrôle, un marqueur de sélection, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire un gène de résistance à un antibiotique, en particulier la néomycine. Donc on peut mettre un gène de résistance à la néomycine, c'est-à-dire que ces cellules vont être protégées contre l'antibiotique, mais toutes les autres cellules dans la culture vont mourir. D'accord ? Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, donc on fait une souris qui porte, pas des détecteurs géniques, vous faites une souris qui porte ce gène de la néomycine, résistance, donc dont toutes les cellules sont résistantes à cet antibiotique, et en même temps, vous mettez ce gène sous le contrôle d'un autre gène qui, lui, est exprimé dans toutes les cellules souches et uniquement dans les cellules souches, et qui s'appelle FBX15. Ce n'est pas le problème, on s'en fiche, mais c'est un gène cellule souche, et qui n'est pas nécessaire pour faire une cellule souche, mais il est marqueur de cellule souche. C'est-à-dire que si un de mes fibroblastes devient une cellule souche et qu'il exprime FBX15, alors il va devenir aussi résistant à la néomycine. Et donc, je vais pouvoir sélectionner mes cellules et n'avoir dans ma boîte que les cellules qui expriment des gènes qui permettent à ma cellule de devenir une cellule souche. D'accord ? C'est un petit peu compliqué, ça ressemble à du Raymond DeVos, mais c'est comme ça, c'est pas très, très compliqué, à vrai dire. Donc, il a pris ces 24 gènes et il les a exprimés dans des fibroblastes. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Hein. Donc, avant, je vous donne les points généraux. Je vais revenir sur la manip, ça va devenir plus clair. Donc, une fois qu'il a eu ces 24 gènes et qu'en exprimant, en co-exprimant ces 24 gènes dans ses fibroblastes, il a montré que ces fibroblastes exprimaient TBX15, c'est-à-dire tout d'un coup avaient la signature cellule souche et en même temps étaient devenus résistants à la néomycine, puisqu'on a mis la néomycine, le gène de résistance à la néomycine, sous le contrôle de TBX15. Eh bien, il a fallu diminuer, c'est-à-dire qu'il a fait 24-1, donc 24 combinaisons, 24-1. Donc, comme ça, on pouvait voir les gènes qui étaient indispensables. Si tout d'un coup, ça ne marchait plus, ça veut dire que ce gène-là était vraiment indispensable. Donc, il est arrivé à 10 gènes qui étaient quand même... Et au deuxième tour, il a repris ces 10 gènes, et puis il est arrivé à 4. C'est comme ça qu'il a réussi à réduire le maximum pour avoir ces 4 gènes. Donc, c'était vraiment... on peut même descendre à 3 gènes, à vrai dire. On peut même retirer ces MYC. Alors, ça, c'était véritablement excitant, bien entendu. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y a quand même des points qui sont importants. Premièrement, il y a la mutagénèse qui est liée à l'intégration. Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé des rétrovirus, c'est-à-dire des virus qui portent les gènes, 24 rétrovirus, 24 gènes, pour intégrer, pour infecter ces cellules, pour que ça s'intègre dans le génome. Le rétrovirus doit être transformé en ADN, l'ARN, et puis intégré dans le génome. Donc ça s'intègre quelque part, ça fait des mutations, hein, d'une certaine façon. Donc, c'est toujours un petit peu dangereux, même si on peut le faire aussi avec des épisomes, j'y reviendrai. Ensuite, c'est que ces gènes qui sont introduits, bien entendu, peuvent avoir des propriètes tumorales. Et elles ont des propriétés tumorales que vous allez voir. Donc, ça, c'est. Et même si on arrive à contrôler les choses, on n'est jamais sûr de pouvoir contrôler les choses, parce qu'on peut même créer des cellules souches tumorales qui sont absolument impossibles, quasiment, dans l'état actuel de nos connaissances, à éliminer. Donc, d'ailleurs, si vous voulez augmenter le taux de reprogrammation de vos fibroblastes, c'est-à-dire faire plus de cellules souches à partir de fibroblastes, parce que vous allez voir, les rendements sont relativement faibles, eh bien, il faut activer les oncogènes. C'est-à-dire que d'abord, c'est MYC qui est un oncogène, qui est un de ces gènes, mais aussi, par exemple, si vous inactivez P53, qui est un anti-oncogène, vous augmentez à la fois la tumérogénicité, mais aussi la possibilité de faire ces cellules souches pluripotentes. Il reste que ça nous indique quand même dans quelle direction il fallait chercher, c'est-à-dire comprendre le mécanisme épigénétique de cette transformation en cellules souches pluripotentes. Voilà. Donc, cette technologie est cependant aujourd'hui utilisée, il faut le savoir, elle est utilisée non pas pour faire de la reproduction, j'y reviendrai, mais utilisée parce que, imaginez que vous ayez quelqu'un qui a une maladie génétique, eh bien, vous pouvez faire des cellules souches à partir d'un fibroblaste de quelqu'un atteint d'une maladie génétique. Et cette cellule souche, vous pouvez la différencier en un type... Supposez que vous pensez qu'il y a une maladie génétique du système nerveux, vous pouvez prendre un fibroblaste, transformer en cellule ES, en cellule souche pluripotente, et puis le retransformer en neurones, et avoir des cultures de neurones du malade, porteurs de la mutation, sur lequel vous allez pouvoir faire des manips du genre screening pharmacologique, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette cellule qui ne va pas, etc. Donc, sur le plan de la recherche médicale sur les maladies génétiques, c'est déjà en soi, il ne s'agit pas de refaire des bonshommes ou des souris, ou des... on peut y penser, bien sûr, mais déjà au départ, sur le plan pratique ou pragmatique, c'est quelque chose qui est relativement important. Donc, je vais revenir à l'article original de... Alors, vous voyez, c'est voilà comment, ce que je disais... Pour faire cette souris qui a permis de faire les fibroblastes de screen, ils ont pris une cellule S, c'est classique, ils ont mis le gène de résistance à la néomycine avec un marqueur qui fait bleu quand le gène est exprimé, sous le contrôle de FBX5, qui est donc ce marqueur de cellules souches. Donc avec ça, ils ont fait une souris, hein, comme tout à l'heure, ils ont mis dans la blastula, blablabla, et puis ils ont fait une souris, et ils ont fait des cellules S plutôt à partir de ça, on réimplanté, et donc maintenant on a des souris qui sont toutes porteuse de ce gène. Et là, maintenant, je peux prendre un fibroblaste de la queue de cette souris, et c'est à partir des fibroblastes de la queue de ces souris bleues, mais aussi résistantes à la néomycine, que je vais faire mes manips de reprogrammation. Donc, voilà comment ça se passe. Ça, ici, par exemple, c'est des cellules de fibroblastes qui n'ont pas été transfectées, qui ont été transfectées avec seulement un des 24 gènes, et là, ils ont mis les 24 gènes. Et vous voyez qu'ils ont sélectionné que la néomycine, c'est-à-dire que tout le monde est mort, là, tout le monde est mort, mais là, tout le monde est mort, sauf ces clones, qui sont des clones qui expriment l'AXED, et donc expriment la néomycine, et donc sont des clones qui ont résisté, si vous voulez, à l'affaire, mais non seulement ont résisté, mais expriment FBX5. C'est-à-dire que ce sont des clones qui ont le marqueur cellule souche. Hein. Et si vous regardez, ça c'est MF24, c'est-à-dire que c'est des fibroblastes d'embryons de souris, qui ont eu les 24 gènes, et en fait, si vous connaissez un tout petit peu, ça ressemble énormément à des cellules ES. Hein. Vous pouvez aussi regarder, ça c'est ce qu'on appelle les méthylations des CPG, c'est-à-dire dans les régions promotrices, quelles sont, ça c'est plusieurs lignées, en noir, ça veut dire que c'est méthylé au niveau des CPG, en blanc, c'est-à-dire que ce n'est pas méthylé au niveau des CPG. Ça, c'est l'embryon c'est le fibroblaste de base. Le gène NANOG, qui est un homéogène qui est très fortement exprimé dans les cellules souches, vous voyez que ces promoteurs sont fortement méthylés dans les embryons de fibroblastes, c'est-à-dire qu'il est très peu exprimé à cause des méthylations. C'est une modification épigénétique, méthylation des îlots CPG dans les promoteurs, au niveau des promoteurs. Pour FBX15, c'est pareil. Vous avez une méthylation forte dans le fibroblaste. OCT3-4, qui est un de ces gènes, est aussi fortement méthylé. Vous voyez que dans les cellules ES, vous avez quasiment zéro méthylation. Dans vos cellules souches embryonnaires, ES, normalement, ces gènes ne sont pas méthylés, ça veut dire qu'ils sont exprimés, fortement exprimés. Et maintenant, dans vos fibroblastes dans lesquels vous avez introduit vos 24 facteurs, vous voyez que vous perdez la méthylation sur NANOG, sur FBX15. Vous avez encore des lignées dans lesquelles vous avez une forte méthylation de OCT3-4. C'est une exception. Et là, vous pouvez regarder tous les gènes qui sont exprimés dans vos différentes lignées. Donc, ensuite, on passe à 4. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est... alors là, c'est assez vache ce qu'on fait parce que c'est des cellules souches IPS que vous balancez dans le testicule de la souris. C'est pour ça qu'elle fait la gueule. Et ça, ça fait des tumeurs. Et ces tumeurs, dans ces tumeurs, vous allez trouver tous les types, ça s'appelle un tératocarcinome, vous allez trouver tous les types tissulaires. Donc ça, ça veut dire que si à partir de ces tumeurs qui sont dérivées des IPS, vous allez avoir du mésoderme, de l'endoderme, de l'ectoderme, ça veut dire que vos cellules IPS sont pluripotentes, qu'elles peuvent effectivement faire tous les tissus. Et vous pouvez le voir ici, ça, ce sont les tumeurs qui sont sectionnées. Vous voyez ici, il y a de l'actine musculaire, donc ça veut dire que vous avez du tissu de type mésodermique. Là, vous avez GFAP, ça veut dire que vous avez c'est un marqueur de tissu neuroectodermique, marqueur d'astrocyte, vous voyez que vous avez ce marquage. Là, vous avez de la bêta-3-tubuline, ça veut dire que vous pouvez faire des neurones, etc. Donc, et ça, ce sont des expériences de différenciation en culture, où vous pouvez voir qu'avec simplement les 4 gènes, ACMF4, ça c'est avec 10 gènes, vous avez de l'actine, de l'alpha-phétoprotéine, de l'endoderme, de la bêta-3-tubuline, ça veut dire de l'actine musculaire, de l'endoderme et de l'ectoderme. Donc ces cellules qui ont été fabriquées par induction via un vecteur viral, expression de ces 4 gènes, qui induisent des gènes endogènes, ces cellules sont capables de donner tous les tissus que vous avez dans un embryon. Donc elles sont effectivement totalement totipotentes. Excusez ce pléonasme, elles sont totipotentes. Alors, on peut se poser la question des rendements. Donc, d'abord, ces gènes, que sont-ils ? Bon, c'est peut-être pas la peine que je parle de ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, si on examine les quatre vainqueurs, là, OCT3-4, qui est un homéogène de la famille Pou, en fait, KLF4, qui est un facteur de transcription de la famille Krupel, SOX2 et le quatrième, c'est SEMIC. Il y en a deux qui ont une très forte connotation cancer. Les deux qui ont une très forte connotation cancer sont évidemment SEMIC, qui est un oncogène très connu. SEMIC a énormément de cibles transcriptionnelles qui sont associées à la prolifération et à la transformation cellulaire. Donc, dans le génome des mammifères, vous avez 25 000 sites, c'est énorme, vous avez 25 000 sites de fixation pour SEMIC, et c'est un oncogène qui a une action générale sur l'acétylation des histones. L'acétylation des histones, ça veut dire une augmentation de la transcription. Donc, quand vous exprimez SEMIC, vous augmentez énormément l'ouverture de promoteurs de la transcription, et en particulier de promoteurs de gènes qui sont régulés par OCT3-4 et SOX2, qui sont deux autres compagnons de misère de ces quatre gènes. Quant à KLF4, qui est un autre facteur de transcription, lui, c'est un répresseur de P53. P53 est un anti-oncogène. Donc, quand vous surexprimez KLF4, vous baissez P53 et du coup, vous augmentez NANOG. Ça, c'est un autre truc, mais bon, je parlerai de NANOG plus tard, peut-être. Donc, les niveaux de P53 sont très faibles dans les IPS, sont plus faibles que dans les fibroblastes d'origine, et on peut penser que KLF4 participe à l'expression non seulement de NANOG, mais d'autres gènes par inhibition de P53. Alors, KLF4 pourrait aussi avoir une autre fonction, bien entendu, ce serait d'antagoniser, si vous voulez, l'apoptose qui est provoquée par une surexpression de SEMIC, justement en diminuant l'activité de P53. Donc ça, c'est un petit peu technique, mais le message que je veux dire, c'est que c'est très très bien ces IPS, mais que, attention, attention, tumeur, attention, cancer. D'accord ? Donc, avant de vous faire greffer un peu de cellules souches pluripotentes pour soigner vos bobos, pensez que la guérison peut être pire que le mal. Donc, il faut peut-être. Voilà, bon. Mais bon, on va s'occuper de ça. Donc, un problème aussi, c'est l'efficacité. C'est très, au départ, dans le premier article de Yamanaka, le taux de transformation était de 0,05%. C'est-à-dire qu'il fallait une cellule sur 2000 pouvait être reprogrammée pour redonner une cellule souche totipotente. Donc, ce n'était pas énorme. Et ça posait un problème de mécanisme. C'est-à-dire que il y a différents mécanismes possibles. Donc, le premier mécanisme, c'était le modèle élitiste, où au fond, il y aurait dès le départ, parmi les fibroblastes, des fibroblastes élus, si j'ose dire, en jaune, qui, sous l'influence de l'expression des quatre facteurs après infection par le rétrovirus, sont capables de donner des cellules souches pluripotentes. Donc ça, c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai 2000 fibroblastes, mais que la très grande majorité, ils sont fichus, ils ne peuvent pas être programmés. On ne peut pas les désépigénétiser, si j'ose dire. Donc, ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que c'est le rétrovirus lui-même qui, en s'insérant, confère à un certain nombre de ces fibroblastes la capacité de devenir pluripotents. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Ce n'est pas une possibilité très sympathique. La troisième. Ça correspond à quelque chose d'assez intéressant parce que, d'une certaine façon, 0,05%, c'est ce qu'on avait avec Dolly. Ça pourrait vouloir dire que dans les fibroblastes de la glande mammaire de Dolly ou dans les kératinocytes de la glande mammaire de Dolly, il y avait des cellules souches un petit peu, donc qui correspondaient à 0,07%. C'était ça chez Dolly. Et puis que c'est cela, en fait, qui avait été touché par... pour ça qu'on a des rendements si faibles. Et puis, l'autre possibilité, c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mais que tout le monde ne le fait pas. C'est un modèle de type épigénétique. Vous revoyez ici ce schéma que je vous ai souvent montré au cours des trois dernières années, en fait, qui est le schéma de Waddington, où la totipotence est là, et les cellules au cours de différenciation passent dans des vallées pour donner différents types cellulaires. La transdifférenciation, c'est quand je passe d'une vallée à l'autre. Et ce qu'on fait quand on fait les cellules souches pluripotentes, c'est qu'en fait, on joue au flipper. On remonte la boule vers le haut. Mais ce qui se passe le plus souvent, c'est que la boule redescend. Vous avez toujours au flipper, ça revient vers le trou. Donc, sauf si elle se coince. Et donc, l'idée, c'est que si vous remontez la boule, pour qu'elle se coince, il faut exprimer les quatre gènes de façon significative, c'est-à-dire et dans les bonnes proportions. À ce moment-là, vous avez effectivement la cellule pluripotente, vous avez remonté, et l'expression de votre quatre gènes, en fait, c'est une façon de pousser le truc. Et s'ils se mettent en route, parce que ce n'est pas ceux que vous avez introduits qui vont rester, ceux que vous avez introduits vont allumer ceux qui sont dans la cellule. Ils sont auto-inducteurs. Donc, si vous avez un bon niveau d'expression, alors, vous voyez, vous avez là, et vous ne redescendez pas, vous avez gagné une partie. Donc, il y a de fortes chances que ce soit ce modèle-là qui est le bon modèle. Et pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je vais vous entretenir, c'est qu'en particulier, on a beaucoup augmenté les taux récemment de transfection. C'est-à-dire, par exemple, si vous mettez l'agent de sélection, la néomycine, un peu plus tard, vous pouvez passer de 0,05 à 0,5. Déjà, vous gagnez un facteur 10. Donc là, ça devient déjà plus raisonnable. Mais vous pouvez aussi monter à 10% de transformation, c'est-à-dire de formation de cellules souches induites, en mettant un inhibiteur des histones déacétylases, c'est-à-dire en augmentant les niveaux de transcription générale de votre cellule. C'est-à-dire que, vous savez, quand on acétyle les histones, eh bien, on a plus de transcription. Si on le déacétyle, on en a moins. Si on inhibe la déacétylation, on en a plus. Donc, si vous mettez de l'acide valproïque, par exemple, vous avez une augmentation. Vous passez maintenant à 10%, ce qui quand même devient très raisonnable. Un autre facteur en modèle, un autre élément en faveur du modèle stochastique, c'est les analyses de lignage. Donc, on fait ça avec des fibroblastes, mais on peut faire ça aussi avec des cellules de pancréas, on peut aussi faire ça avec des cellules hépatiques, on peut faire ça avec des cellules lymphocytes. Donc, ça ne veut pas dire que certaines cellules ne répondent pas plus que d'autres. On peut imaginer que certaines sont plus programmables, en particulier les cellules souches neurales, par exemple, dont je parlerai à un moment ou à un autre. qui existent dans notre cerveau, dont je vous ai parlé plusieurs fois, il suffit d'un seul facteur pour en faire des cellules souches pluripotentes. Vous leur balancez du OCT4 et c'est gagné. D'accord ? Donc, il y en a qui sont plus accessibles à la reprogrammation que d'autres. Et des cellules du système nerveux, parce qu'elles expriment en fait déjà les autres facteurs, à bas bruit, mais elles les expriment, peuvent être reprogrammées beaucoup plus facilement. Si on veut se faire repousser une moelle, c'est plutôt avantageux. Je veux dire une moelle épinière. Hein. Donc, je reviendrai sur cette question. Donc, une autre... L'autre raison, c'est que, vous allez voir, on peut même augmenter beaucoup plus que ça. Hein, vous allez voir tout de suite. Alors, pour ça, il faut que je vous rappelle un tout petit peu, pour continuer un tout petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière. Vous rappelez que quand je suis différencié, bien évidemment, je vais méthyler plusieurs. Là, par exemple, dans les fibroblastes de poumon, je n'exprime pas les gènes OXA, ou très peu, en tout cas les A13, A11, A10, A9. Et en fait, c'est parce que j'ai des très forts niveaux de méthylation sur la lysine 27 de l'histone 3. Donc, j'ai très peu de polymérase, etc. Mais par contre, quand je prends les fibroblastes de pied, adultes, hein, à ce moment-là, je vais avoir une très forte expression de mes gènes et très peu de méthylation. Donc, en fait, ces méthylations des histones, on en a parlé, sont liées à des facteurs de la famille trithorax ou polycombe. Trithorax est un activateur où vous avez des méthylations, en particulier sur les lysines 4 ou des méthylations sur les lysines 27 de l'histone H3. Et vous voyez ici, par exemple, que quand vous méthylez en position de la lysine 4, vous avez une activation. Et quand vous avez trois méthylations au niveau de la lysine 27, vous avez au contraire une répression. Tout ça est emporté par des ARN non codants. Par ailleurs, la méthylation de l'ADN permet l'arrimage au niveau des sites de transcription des complexes de répression qui sont en fait des complexes qui contiennent les éléments de type polycombe. Je n'y reviens pas, on en a parlé la semaine dernière, mais vous comprenez bien que toute cette histoire de reprogrammation, ça veut dire que dans un premier temps, il faut que je bousille cette répression par polycombe pour l'essentiel. Donc, quand on regarde les reprogrammations des IPS, on se rend compte qu'elles sont pour l'essentiel conduites par des questions de modification des histones. Hein. Donc, dans les cellules ES, comme dans les IPS, qui sont donc des cellules souches totipotentes, les histones H3 et H4, qui font partie donc, de la structure de la chromatine, sont hyperacétylées, c'est-à-dire qu'au niveau des promoteurs, des gènes qui sont associés à l'état pluripotent. Hein. Donc là, il y a des gènes qui sont stem cell NES qui marquent l'état pluripotent, et donc les histones qui sont au niveau des promoteurs de ces gènes sont hyperacétylées, c'est-à-dire que ces gènes sont extrêmement actifs. Et par contre, dans les cellules différenciées, ces histones sont hypoacétylées, c'est-à-dire qu'il y a peu d'acétylation, c'est-à-dire que ces gènes sont peu actifs. Donc on joue beaucoup sur cette question de l'acétylation. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi la méthylation des histones, je vous l'ai montré, donc la méthylation en particulier de l'histone H4 qui est, H3, sur la lysine 4 ou sur la lysine 27, par exemple. Et dans les cellules IPS, il y a quelque chose qui est absolument unique, qu'on ne voit jamais, c'est qu'on a des grandes régions qui sont porteuses de méthylation sur la lysine 27. Et à l'intérieur, vous avez des régions où vous avez des méthylations sur la lysine 4. C'est-à-dire que vous avez des petits bouts qui seraient, en théorie, activateurs dans des grandes régions qui sont inhibitrices. Et c'est l'inhibiteur qui gagne sur l'activateur. C'est-à-dire que ces régions-là ne sont pas exprimées. Donc, vous avez des gènes qui sont des gènes de différenciation, en particulier des facteurs de transcription de la famille des OX, mais aussi d'autres facteurs de transcription, qui sont, dans ces cellules souches pluripotentes, sous le contrôle de régions dans lesquelles les histones sont à la fois, dans certains domaines, méthylés sur 27 et dans d'autres domaines, méthylés sur 4, lysine 4. Et ça n'existe nulle part ailleurs. C'est uniquement dans ces cellules-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gènes ne peuvent pas être exprimés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas épigénétiser entre guillemets le chromosome, c'est-à-dire que je reste dans un état indifférencié, mais que je suis dans les starting blocks, c'est-à-dire que je suis dans un état bistable. Je peux immédiatement engager une répression ou au contraire une activation en réponse à des signaux extérieurs. Une fois que ma cellule est différenciée, soit le gène est silencieux, et à ce moment-là, je vais être méthylé sur les lysines 27, soit mon gène est activé et je vais avoir une méthylation sur les lysines 4. Donc, mais après, il n'y a plus de mélange entre les deux types de modifications. Donc ça, c'est un truc qui avait été observé par Bernstein en 2006. Je voulais vous le dire parce que je pense que c'est un truc intéressant parce que ces régions sont des régions qui régulent la transcription de gènes de développement qui sont très importants pour la différenciation et pour le marquage épigénétique de mes cellules. Donc, ça veut dire que toutes les choses sont compliquées. Oui, ça, c'est la vie. Bon. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut... voilà, c'est le schéma qui est plus simple. Hein. Donc, vous avez les ES et les IPS, et vous avez ces régions qui inhibent, qui démarrent la transcription, hein, les sites de démarrage de la transcription, avec vos histones qui sont sur le chromosome, qui font partie du chromosome et qui englobent l'ADN, avec K27 qui est dominant sur K4. Et dès que vous différenciez, alors vous êtes soit K27, soit K24, soit vous êtes activé, soit vous êtes éteint. Et ces cellules-là, qui ont les deux types de marquage, sont évidemment prêtes à en perdre un, et donc à démarrer très rapidement la différenciation. Donc, je vais maintenant regarder un tout petit peu ce qui se passe au niveau de la façon d'augmenter mes taux de transformation en IPS. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont mis des cellules dans lesquelles ils ont mis la GFP, qui rend les cellules vertes, sous contrôle de OCT4. OCT4, c'est un des facteurs qui est nécessaire pour la transformation. Mais ça, c'est l'OCT4 endogène. D'accord. Donc, vous voyez que quand je traite à l'acide valproïque, c'est-à-dire que je vais modifier mon niveau d'acétylation des histones. Donc là, je bloque les déacétylases. Donc vous voyez que j'ai une très forte augmentation de la transcription de OCT4. Donc ça vous montre que là, si je force l'acétylation d'une histone de H3 au niveau de mon promoteur, je vais avoir une forte expression de OCT4. Et vous voyez ici que c'est un moyen, et c'est très important, bien entendu, c'est un moyen de moduler les taux de transformation en IPS. C'est-à-dire, je prends un fibroblast, je vais en faire une cellule souche, mais vous voyez que si je ne fais pas de traitement, j'ai 0,02% de succès. Hein. Et puis si je mets la 5-azacitidine qui en fait bloque les méthylations des CPG, tout de suite j'augmente mon taux de transformation. Et si je mets la 5-azacitidine plus la dexaméthasone, donc ça augmente encore plus, même si la dexaméthasone ne fait rien toute seule. Ça, c'est l'acide valproïque qui va jouer sur l'acétylation des histones. Vous voyez que tout de suite, je peux aller jusqu'à 10 à 15% de succès de formation de cellules souches, aussi avec la TSA, qui normalement a le même effet que l'acide valproïque. Et ce qui est surtout très intéressant dans cette affaire, c'est que si je bloque la déacétylation de mes histones, c'est-à-dire que si je me mets dans une situation où j'ai un fort taux de transformation, je peux éliminer ces MYC. Et ça, c'est important parce que éliminer ces MYC, c'est éliminer des risques de choper un cancer. C'est-à-dire qu'en fait, je diminue la potentialité cancérigène de mon cocktail en éliminant un des quatre facteurs. Maintenant, je descends à trois facteurs, mais je joue à ça en forçant l'acétylation de mes histones en mettant un inhibiteur des histones des acétylases, en l'occurrence le TSA ou l'acide valproïque. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, dans la littérature, vous avez toutes sortes de gens qui essayent de modifier ça de telle sorte d'avoir des succès de plus en plus grands dans la formation de ces cellules, de telle sorte qu'ils puissent, à terme, hein, parce que l'idée est quand même thérapeutique. Hein. Donc, si vous prenez maintenant ces cellules IPS qui n'ont pas l'oncogène c-MYC, hein, et que vous les injectez dans le testicule, vous voyez que vous avez la différenciation en peau, en muscles, en glandes acinaires, en cartilage, en tissu nerveux, etc. Ça veut dire que ces cellules qui ont été mes fibroblastes que j'ai transformées en IPS en l'absence de c-MYC, je peux les utiliser, elles sont totipotentes. Elles sont totipotentes dans le système d'induction d'une tumeur du testicule, mais aussi dans un système de transgénèse. Je peux prendre des cellules qui exprimaient bêta-gal hein, sous le contrôle de OCT4, donc des cellules qui deviennent bleues quand OCT4 est exprimé. Et vous voyez que je peux avoir des animaux qui vont être des cellules. Oui, dans des, mes IPS sont bleus, excusez-moi. Elles donnent des cellules bleues quoi qu'il arrive. Mais vous voyez que ces cellules bleues peuvent contribuer à tous les tissus. Vous pouvez même arriver à avoir un système dans lequel vous avez une souris qui est entièrement bleue, c'est-à-dire qui n'est faite que des cellules IPS, qui ne contiennent maintenant que trois facteurs, OCT4, Krupel, KLF4, et puis SOX2, mais pas de CEMIC. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc, il reste que, bien entendu, vous avez la question des vecteurs. C'est-à-dire que la plupart de ces transformations cellulaires, elles sont faites avec un rétrovirus, c'est-à-dire que je rentre mes gènes avec un virus, mon virus s'intègre dans le génome, et donc ça fait des trous dans le génome, ça introduit des mutations. Donc, comme dans toutes les expériences de thérapie génique, vous voulez minimiser, bien entendu, ce problème de mutation. Parce que une mutation ne tombe pas toujours là où elle devrait tomber. Elle peut tomber dans des endroits qui ne sont pas forcément agréables. Ça peut provoquer des maladies pires que celles qu'on veut guérir, éventuellement. Alors, on peut utiliser des adénovirus, qui sont des épisomes qui ne s'intègrent pas et qui finissent par disparaître. Mais de nouveau, l'idée de se balancer un virus dans le coco n'est jamais quelque chose de très sympathique. Donc, comme l'action de la protéine... Alors, et l'autre chose, quand vous prenez un virus, c'est que vous ne savez pas les niveaux d'expression de vos gènes. C'est-à-dire que vous mettez le truc, ça s'exprime, mais ça peut s'exprimer de façon extraordinairement forte. Et c'est possible qu'en fait, une très faible expression soit suffisante. Donc, ce qui a été fait par des équipes autres, c'était d'introduire les protéines. Donc, il y a deux équipes, c'est des papiers de Cell Stem Cell, qui ont utilisé des peptides vecteurs, c'est des petits peptides, qui, quand ils sont liés à une protéine, font rentrer la protéine dans les cellules. Hein. Donc, les pénétratines, les polyarges, tout ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est au lieu de mettre soit un rétrovirus, soit un nanovirus, les nanovirus est donc, comme je vous le disais ici, sous forme d'épisome, ici, le rétrovirus, lui, il est intégré. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cloné OCT4, KLF4, SOX2 et CEMIC. Ils ont fait la protéine, ils ont fabriqué la protéine, ils ont balancé un petit vecteur peptidique, et puis ça permet de rentrer dans la cellule. Et ce que vous voyez ici, c'est que l'avantage, c'est que d'ailleurs, vous pouvez calculer la stoichiométrie de vos protéines, parce que vous voulez savoir combien de chaque protéine vous mettez, donc vous pouvez calculer la meilleure stoichiométrie pour avoir le plus haut rendement, et en même temps, ces protéines sont instables dans la cellule, c'est-à-dire qu'elles vont pourrir, elles vont être dégradées, mais entre-temps, elles auront activé leur propre gène. C'est-à-dire que le système va se mettre en route de lui-même. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, vous pouvez avoir le minimum, la quantité minimum, la concentration la plus correcte, et puis vous ne faites pas de modification du génome. C'est-à-dire que le génome n'est pas modifié, il est simplement transformé en truc. Et ça marche très bien. En fait, ça a permis de faire... la même chose, donc voilà le protocole, ça c'est le papier de Zhou et compagnie, et ce que vous pouvez voir, c'est que maintenant vous êtes des experts, ce qui se passe ici, par exemple, au niveau du promoteur de OCT4 dans des ganglions de fibroblastes, c'est-à-dire qu'il est hyperméthylé, hein. Le promoteur de Nanog est aussi, les promoteurs de Nanog sont aussi hyperméthylés, chaque lignée, là, c'est une lignée cellulaire, et ça, c'est des CPG différents le long de votre promoteur. Hein. Vous voyez que quand vous avez transformé vos cellules avec vos peptides, hein, ce qui se passe ici, vous avez déméthylé vos promoteurs, vous avez transformé vos cellules en cellules souches, et bien entendu, sinon ce ne serait pas drôle, vous êtes capable d'induire les gènes endogènes. Hein, vous voyez ici que OCT4, SOX2, là c'est KLF4, Nanog, CEMIC, Cadherine. Tous ces gènes sont maintenant exprimés, qui n'étaient pas exprimés dans le fibroblaste d'origine. Hein. Vous voyez ici, ils ne sont pas exprimés, ceux-là en tout cas. Et donc, vous avez fait des cellules souches qui peuvent être réagrégées dans la blastula. Là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez prendre des cellules qui vont être réagrégées dans la blastula. Elles sont vertes parce qu'elles expriment la GFP. Et puis, elles vont vous permettre de refaire une souris qui, à partir des cellules qui ont été ainsi modifiées, cette fois-ci par l'introduction d'un vecteur peptidique, ce qui, évidemment, rend les choses moins dangereuses. Voilà. Donc, il est 6 heures et j'en arrête là. La semaine prochaine, je passerai aux cellules souches nerveuses, neurales. Et l'année prochaine, puisque la semaine prochaine, c'est notre dernier cours, je vous raconterai pas une histoire, même si c'est la fin de l'année. Je vous parlerai des cellules souches. Une année prochaine, nous ferons un cours qui sera entièrement consacré à la régénération du système nerveux. Voilà. Donc, c'est une décision que j'ai prise cette semaine parce que je n'ai pas eu le temps de terminer tout ce que je voulais terminer cette année. On a fait à peine la moitié de ce que je pensais pouvoir faire avec vous. Mais bon, c'est comme ça. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.